Le congrès s'est ouvert hier par une visite, les pieds dans la terre au milieu des chèvres et des vaches, rafraîchis par brumisateurs dans une ferme niortaise des Deux-Sèvres. Le syndicat agricole FNSEA tient en ce moment sa réunion annuelle, plusieurs fois repoussée pour cause de Covid. 3 jours de débat à huis clos avec 1200 agriculteurs. Mais l'invité du 13-14 de France Inter aujourd'hui va peut-être nous dévoiler les grands axes de discussion. C'est Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Bonjour.
Bonjour.
Vos questions à Christiane Lambert, chers auditeurs, 01 45 24 7000 et sur l'application. On va commencer, Christiane Lambert, peut-être avec la question des prix et du pouvoir d'achat qui est dans l'actualité en ce moment. Les matières premières sont en hausse depuis des mois. Comment s'en sortent les agriculteurs ?
Avec une augmentation du prix des céréales de 30% depuis le début de l'année, cela représente une augmentation forte de l'alimentation animale pour élever nos animaux et donc pour nous agriculteurs, avec des prix du lait ou de la viande qui n'augmentent pas, les marges se restreignent et donc les revenus vont s'en ressentir. Voilà pourquoi nous attachons beaucoup d'importance à la loi alimentation qui est en débat au Sénat en ce moment pour pouvoir avoir des revalorisations et des indexations de prix quand il y a de telles hausses.
On va en parler dans un instant de cette loi, Christiane Lambert, mais ça veut dire que vous, agriculteurs, dans les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs qui démarrent bientôt, vous allez pousser pour une hausse des prix, y compris pour les consommateurs ?
Aujourd'hui, les agriculteurs subissent des hausses sur l'alimentation animale, sur le carburant, sur les engrais. Les industriels subissent des hausses sur les cartons, sur l'acier, sur tous les emballages. Les jouets de Noël vont augmenter parce que l'acier et le bois est plus cher. C'est une réalité, nous n'y pouvons rien. L'alimentation aujourd'hui, c'est un budget qui a toujours baissé dans la dépense des ménages. Les distributeurs se livrent une guerre de prix épouvantable, mais ils ont détruit beaucoup de valeurs. Ils ont mis en faillite beaucoup d'industriels et d'agriculteurs. Beaucoup disent, y compris Emmanuel Faber de Danone et d'autres, que les Français ne payent pas l'alimentation au vrai coût. Et d'ailleurs, on importe beaucoup de produits venant d'ailleurs parce qu'ils sont moins chers. Est-ce que les Français veulent encore conserver des agriculteurs, ceux qu'ils ont plébiscités pendant le confinement, en me disant qu'ils aimaient les petits producteurs, qu'ils aimaient les agriculteurs? Eh bien, l'acte d'achat est déterminant pour la pérennité de l'agriculture en France. Donc, ça sera quelques centimes. Un ménage dépense 350 euros par mois pour se nourrir. 350 euros. S'il y a une augmentation de 2 à 3%, ça suffit pour que les agriculteurs gagnent leur vie. Donc on ne parle pas de centaines d'euros, on parle de dizaines de centimes pour que l'agriculture française puisse vivre. C'est ça le vrai sujet.
Donc vous dites aux consommateurs, acceptez ces quelques dizaines de centimes pour que nous, agriculteurs, nous puissions fournir une alimentation de qualité, en clair.
Pendant le confinement, nous avons assuré, nous avons travaillé, ça nous a coûté plus cher à produire. Les consommateurs ont plébiscité les producteurs. Et d'ailleurs, les consommateurs disent à 75%, nous sommes prêts à payer plus cher si nous sommes sûrs que ça va jusqu'aux producteurs. Mais il y a les industriels et les distributeurs. Je rappelle l'an dernier que Carrefour, durant l'année 2020, a eu une augmentation de chiffre d'affaires de 7 à 8% et une augmentation de résultats de 16%. Les distributeurs se sont engraissés copieusement l'année dernière parce que les restaurants étaient fermés. Pensez-vous qu'ils ont renvoyé l'ascenseur aux fournisseurs ? Pas du tout. Donc chacun son tour. Moi, je suis pour un partage de la valeur.
Donc qui fait l'effort, le distributeur ? Qui fait l'effort, le distributeur ou le consommateur ?
Alors, c'est sûr que le distributeur peut réduire ses marges, mais il faut aussi que les consommateurs, vous-même, madame, si vous faites vos courses qu'avec des produits importés, est-ce que vous allez dire à votre voisine, à vos enfants, tu trouveras du travail en France ? Non ? S'il n'y a pas de production en France, il n'y aura pas d'emploi en France. Donc c'est chaque consommateur qui est concerné dans ses propres actes d'achat.
Christiane Lambert, la question des prix, elle va aussi avec celle, on en parlait, de la rémunération des agriculteurs. Le Sénat discute en ce moment une loi de régulation qui doit être promulguée fin octobre. La loi Egalim, qui limitait déjà la course au prix bas dans les supermarchés, elle ne suffisait plus ?
Non, la première loi ne suffisait pas parce que, d'une part, les distributeurs ont fait preuve de beaucoup d'imagination pour contourner la loi. Là où les promotions étaient encadrées, ils ont inventé des prix flash, des prix choc, des prix bruts qui faisaient jusqu'à 70% de réduction. Eh bien, c'est une reprise en main du premier texte avec une consolidation obligeant à des contrats entre producteurs et industriels, puis une négociation entre industriels et distributeurs, construire les prix en marche avant en partant des coûts franco-français. Nous sommes en France, les salaires sont plus élevés qu'ailleurs, les charges sont plus élevées qu'ailleurs, les normes environnementales environnementales sont plus élevées qu'ailleurs, ça nécessite des prix qui sont construits en marche avant. Et c'est tout ce qui a manqué depuis des années pour conserver l'agriculture en France. Alors il faut que les sénateurs tiennent bon, ne détricotent pas ce qui a été voté à l'Assemblée nationale par les députés à l'unanimité. Il n'y a pas eu de bagarre gauche-droite.
Ça veut dire que vous avez le soutien de la majorité.
À l'unanimité.
Ça veut dire que vous avez le soutien de la majorité.
Ben, il y a le soutien de la majorité, oui, parce que le gouvernement a porté cette loi-là, parce que nous avons poussé à ce qu'il y ait une deuxième loi, il faut qu'elle aille jusqu'au bout.
Et encore une fois, je reviens à la question du consommateur, mais est-ce qu'on ne va pas être perdant au final? C'est vrai que les gens sortent d'une crise sanitaire, pour certains, dans une situation économique difficile, les gens ont touché un peu moins d'argent avec le chômage partiel, etc.
Pas vrai, madame, regardez les vrais chiffres. Le pouvoir d'achat des Français a augmenté, selon les sondages, de 0,6 ou de 1,4%. Il faut arrêter de toujours dire qu'il y a moins de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est normal qu'il y ait moins de pouvoir d'achat et moins de revenus chez les agriculteurs? Est-ce que c'est... Madame, ce n'est pas vrai. L'inflation alimentaire a augmenté moins vite que l'inflation réelle.
Oui, mais si le reste des prix augmente...
Les produits agricoles ont été toujours moins chers. C'est pas normal de dire aux agriculteurs, vous allez devoir vendre moins cher parce que les consommateurs ont moins d'argent et les revenus baissent et il y a des difficultés et il y a moins d'agriculteurs. Vous pouvez pas dire tous les jours, on aime les agriculteurs, on veut les soutenir, mais en permanence dire, il faut que vous vous sacrifiez, chers agriculteurs, parce que les consommateurs ne peuvent pas. Je vous le redis, les consommateurs, eux, sont prêts à payer plus cher si ça vient aux producteurs, mais les distributeurs qui se livrent une guerre des prix fratricide pour se piquer des parts de marché détournent la valeur. C'est ça.
Et dans le cadre de cette loi au Sénat, vous demandez notamment que soient mieux identifiés les produits Made in France. Est-ce que vous avez bon espoir d'être entendu là-dessus?
Oui, nous l'espérons, parce que nos emplois en France sont liés à la production française. Quand on importe 70% des poulets qui sont mangés dans les cantines, ce sont des emplois qui ne se font pas en France. C'est la production qui ne se fait pas en France. Ce sont nos amis, nos familles qui ne trouveront pas d'emploi en France. Donc nous voulons conserver cette production et il faut pour cela qu'on puisse étiqueter les produits avec le pays d'origine. Ça, c'est indispensable pour une bonne information du consommateur. Et d'ailleurs, sur ce sujet, les consommateurs le demandent très fortement.
Quand Sandrine Rousseau, qui est finaliste de la primaire écologiste, dit que les agriculteurs vont devoir accepter une baisse de rendement, est-ce que vous adhérez?
Non, Sandrine Rousseau dit beaucoup de bêtises, hein, c'est pas la première.
Bon, c'est votre avis en tout cas.
Oui, mais elle dit des très grosses bêtises, pardon quand même, hein, je l'ai écoutée sur les genres et sur le racisme et sur autre chose, je ne partage pas. Sandrine Rousseau est pour la décroissance, bien évidemment que nous ne sommes pas d'accord. Produire moins, c'est produire de la faim. La population mondiale augmente. Le besoin en alimentation en protéines augmente. Si on dit qu'il faut produire moins, moins de production, ça sera plus de faim dans le monde et ça sera même plus de gens en France qui arriveront moins à manger parce que l'alimentation sera plus chère.
Et Christiane Lambert, vous dites que les agriculteurs sont des écologistes experts, hein, même si vous n'aimez pas Sandrine Rousseau, mais le rendement a longtemps primé, c'est vrai. Alors, on a une question de Patrice qui nous appelle de la Meuse. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Votre question à Christiane Lambert.
Eh bien, j'habite dans la campagne, j'ai le plus grand respect des agriculteurs éleveurs, surtout, qui font un métier difficile, qui ne comptent pas leurs heures, et qui sortent leurs vaches dans les prés, ce qui devient de plus en plus rare. Je trouve, Madame Lambert a raison, c'est normal de mettre les consommateurs devant leurs responsabilités. Cependant, l'élevage intensif est de plus en plus montré du doigt, l'agriculture bio rencontre un succès grandissant. Je n'explique pas le peu d'enthousiasme de la FNSEA à défendre les filières pourvoyeuses d'emplois et respectueuses d'environnement. D'année en année, on entend le baratin habituel des dirigeants de la FNSEA.
Là aussi, c'est votre avis.
Les ravages de l'agriculture intensive. J'aimerais simplement dire, pour terminer, que les dirigeants de la FNSEA, présents et à venir, en viennent à cultiver l'honnêteté intellectuelle. Il vous faudra beaucoup, beaucoup d'engrais, madame.
Merci pour votre point de vue, Patrice, pour votre opinion. Christiane Lambert, votre réaction.
C'est beaucoup d'agressivité, c'est mal connaître les dirigeants de la FNSEA. Dans mon conseil d'administration, 10% des élus pratiquent l'agriculture biologique, c'est fidèle à la surface cultivée en agriculture biologique. Et nous portons ce sujet-là, mes représentants sont à Tekken Bio. Ce que je vois aussi, et j'invite monsieur à consommer davantage bio, c'est que aujourd'hui nous avons 25% du lait, un quart du lait qui est produit en bio, qui ne trouve pas d'acheteur. Donc il faut aussi que les consommateurs honorent la commande. Tout le monde veut plus de bio, mais les Français ne l'achètent pas. Un quart du lait bio est aujourd'hui déclassé. Donc il faut que la consommation, là aussi, suive et que nous puissions avoir cela. Alors, évidemment, c'est facile de lancer des anathèmes comme ça, mais c'est preuve quand même d'une grande méconnaissance. L'élevage, il est fait aujourd'hui dans des conditions de bien-être et la France est d'ailleurs reconnue comme un bon élève au niveau européen par rapport à la mise en œuvre des normes qui existent. Des progrès sont faits chaque année sur le sexage des poussins qui va éviter de détruire les poussins mâles, sur un certain nombre de pratiques sur les animaux et il y a beaucoup de progrès aujourd'hui qui sont faits en matière de bien-être.
J'allais vous en parler, Christiane Lambert, cette loi, elle va s'appliquer à partir de l'an prochain. Il y a effectivement la fin du broyage des poussins, de la castration à vif des porcelets. Ça va coûter quelque chose. Qui est-ce qui va prendre en charge ce coût?
Eh bien, c'est là qu'on va voir si effectivement les consommateurs sont citoyens. Le ministre de l'Agriculture, la semaine dernière, intervenant dans un SPAS, le sommet d'élevage à Rennes, a dit « Oui, c'est vrai, ça va coûter plus cher, un centime de plus par œuf, pour qu'on puisse faire le sexage des poussins dans l'œuf et éviter d'avoir à tuer les poussins mâles. Ça coûte un centime de plus par œuf. Est-ce que les Français vont être au rendez-vous ou pas ? C'est pas aux agriculteurs de payer cette charge-là, puisque c'est une demande de la société. Et comme a dit le ministre, citoyen le matin, puis consommateur dans le quart d'heure qui suit. » Il faut qu'il y ait une cohérence de tout cela. Moi, je crois que cette élévation du niveau qualitatif, elle est normale. Il faut plus de bien-être et nous le faisons. D'ailleurs, nous le faisons depuis quelques années et nous savons qu'il faudra en faire plus demain. Mais il faut qu'on objective les coûts, combien ça coûte et qui prend en charge. Et c'est pas anormal. Moi, quand j'achète une voiture avec des options, je paye les options supplémentaires. Je fais le choix de rouler en Clio, pas en SUV XXL qui coûte deux fois plus cher. C'est un choix. Si je veux des options, je paye plus cher. Eh bien, tous les consommateurs doivent avoir le même raisonnement pour l'alimentation.
On a une question de Gérard, Christiane Lambert, qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Gérard.
Bonjour, bonjour Madame Lambert. Je vous appelle pour poser la question suivante. Comment se fait-il qu'il faille qu'on importe du soja, notamment pour nourrir les vaches, alors que les vaches, généralement, ça mange de l'herbe, et que d'autre part, certains paysans qui, comment dire, cultivent eux-mêmes leurs céréales sur leurs parcelles s'en sortent finalement pas si mal que ça.
Merci Gérard. Christiane Lambert, effectivement, il y a cette question de l'alimentation des animaux. Il y a aussi les farines animales qui vont éventuellement pouvoir revenir pour nourrir un certain nombre d'animaux. Alors, votre position là-dessus?
Alors, c'est vrai que l'Europe a fait le choix dans les années 60 d'être fortement importatrice de soja, de protéines. Il s'est avéré que dans les pays où ce soja s'est développé, ils l'ont fait en pratiquant la déforestation, ce qui est condamné et encadré aujourd'hui. Nous voulons réduire fortement, voire stopper ces importations de soja brésilien, sud-américain notamment, qui est synonyme de déforestation. Voilà pourquoi nous avons poussé le gouvernement depuis 20 ans à mettre en place un plan protéines. Ça a tardé à venir. Cette fois-ci, il est là. Le ministre de l'Agriculture l'a fait, le président de la République l'a dit lui-même lors du sommet du G7 de Biarritz, il faut absolument produire davantage de protéines en Europe. Il faut cultiver des légumineuses, des protéagineux, de l'herbe. L'herbe, c'est 13 millions d'hectares en France, la moitié de la surface. Mais il y a des éleveurs qui élèvent leurs animaux aussi avec du maïs. Et en complément, il faut des protéines. Et bien, de plus en plus, on les produit avec des colzas. Dans mon élevage de porc, j'ai totalement supprimé le tourteau de soja. Nous sommes à 100% tourteau de colza français grâce aux biocarburants de la filière Diester Industries et aux tourteaux de colza qui sont produits en parallèle. Donc là aussi, c'est une évolution positive de l'agriculture française.
Christiane Lambert, Pierre, qui nous contactait à France Inter, demande quand vous allez vous mettre réellement à combattre le glyphosate. Et j'ajoute ma propre question qui est, l'Europe doit décider d'ici la fin de l'an prochain de réautoriser ou non le glyphosate, l'herbicide, et quelle est la position de la FNSEA là-dessus?
Alors, le président de la République avait fait une déclaration très vive en disant « En France, nous avons supprimé le glyphosate sous 3 ans », et puis il est revenu en arrière, parce qu'il s'est rendu compte de lui-même qu'il avait certainement parlé un peu trop vite. Il s'est déplacé, par exemple, dans l'Eure, où il a vu un agriculteur qui pratique l'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire qu'il ne laboure pas pour capter plus de carbone dans ses sols. Et en captant du carbone, c'est très bénéfique pour le climat. De plus en plus d'agriculteurs le font. Mais cet agriculteur dit aussi, pour réussir, j'ai besoin de glyphosate. Les agriculteurs qui ont des vignes ou des vergers en pente et qui versent leur tracteur quand ils vont désherber, disent aussi, nous avons besoin de glyphosate. Donc je crois qu'il faut revenir au pragmatisme sur ce sujet. Le président de la République a dit récemment, la semaine dernière, désormais, toutes les interdictions de phyto, les produits phytosanitaires, il faut les raisonner au niveau européen. Déjà, c'est bien, parce que c'est pas seulement la France. Si les produits sont dangereux, ils sont dangereux en France et ailleurs. La France est souvent interdit un certain nombre de produits, et les productions sont faites ailleurs. Donc le renouvellement du glyphosate, c'est fin 2022, et d'ici là, les agences vont s'exprimer à nouveau. Moi, je ferai confiance aux scientifiques.
Merci Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, en direct avec nous depuis le congrès du syndicat agricole à Niort. Merci de nous avoir répondu sur France Inter.